journée. Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les radis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger les radis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Bisous, bisous, zou, bisous, zou, bisous, le bruit des bisous.
Où va-t-on, mon cher ami?
On va dans un haut lieu du patrimoine montpelliérain.
Le Rockstore, que
oui.
Tout le monde connaît, toutes les générations le connaissent, parce qu'avant qu'il y ait cette Cadillac bien plantée dans le mur, il y avait plein d'autres activités qui se sont faites ici.
Tu m'étonnes, ça a été l'église de la stricte observance, des jésuites qui n'étaient pas rigolos du tout. Et ça a duré des années, hein,
ouais.
Avec tous les gens qui combattaient les hérétiques, des albigeois, tout ça. Et puis après, c'est devenu un temple protestant. Alors du coup, ça avait basculé complètement du côté des hérétiques.
Et ça a été aussi un cinéma?
Ça a été un cinéma, mais bien avant ça, il y a eu des choses très très drôles. Bien avant d'être un cinéma, tu sais que c'est là où, par exemple, a été enterré le père de Napoléon. Et d'ailleurs, un des premiers films qui a été projeté là, à l'Odéon, en 1928, quand le cinéma a ouvert, c'est le Napoléon d'Abel Gance. Et oui, c'est incroyable. Ça a été un garage. Le premier grand garage Dion-Bouton de la ville de Montpellier. C'est pour ça qu'on a une voiture plantée en plein milieu de la façade du temple.
Et aujourd'hui, le Rockstore, c'est surtout une des seules salles de spectacle en France qui reste complètement indépendante et qui a une vraie importance. C'est la salle où sont passées à peu près toutes les pointures du rock'n'roll et de l'électro à Montpellier. Aujourd'hui, un nouveau projet de salle, il y a la très grande salle, mais ça, il y a des formats qui ne pourront pas faire et le Rockstore va garder son importance. Et le Rockstore a été menacé il y a quelques temps, mais la ville est intervenue.
La ville est intervenue, elle a racheté les murs du Rockstore pour permettre à la SARL Rockstore de pouvoir continuer ses activités. C'est en tout cas ce qu'elle a dit lorsqu'elle les a rachetés. Et pour le moment, elle tient ses engagements, on verra ça. Mais en tout cas, le Rockstore est sauvé dans ses murs. Ça aurait été une énorme faillite de la vie culturelle montpelliéraine si le Rockstore avait dû circuler.
On vous propose dès maintenant... trois volets consacrés à ce lieu. On va rentrer dans les entrailles, dans la tambouille, dans ce qui en interne fait vivre ce lieu. Parce que, avant tout, il y a des gens qui travaillent toute la journée, c'est pas que la nuit.
C'est vrai.
C'est parti.
OTH en concert à Montpellier. OTH, samedi 4 juin à 19h30. OTH.
Les débuts du Rockstore, c'est quoi?
Au départ, c'était une association entre des producteurs de concerts et une radio. C'était l'association du démarrage. Donc on était quatre associés, deux représentants de chaque partie, en gros. Et l'idée, c'était justement de faire des concerts. Donc ça, les producteurs de concerts, c'était des gens qui faisaient de gros concerts, mais qui étaient intéressés pour avoir une salle.
Philippe Winding, dit Fifi.
Qui avait fait venir à Montpellier Pink Floyd, Springsteen, U2, bon, j'en passe, quoi. Et donc avec qui nous, on s'était bien branchés parce que justement, on avait la radio et qu'on travaillait avec eux, on était partenaires sur beaucoup de choses. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les réseaux comme aujourd'hui. C'était plus facile pour une radio locale de s'intégrer dans des événements locaux, disons. Et donc, on avait sympathisé et on cherchait un lieu pour associer les deux. Il se trouve que nous, en ce moment-là, on était en rupture avec Midi Libre, puisqu'on était avec Midi Libre à cette période-là, qui préférait énergie. Donc, comme on était en rupture, on voulait quand même continuer à Alligator. Et donc, on s'est associé. Donc, il y avait d'un côté la radio, de l'autre côté les concerts. Ça, ce sont les piliers du Rockstore. À partir à partir de ce moment-là, les choses sont passées presque un peu disons d'une manière naturelle, c'est-à-dire que petit à petit on a fait des soirées qui duraient après, et puis bon, on était imprégnés tous du même esprit qui était un esprit rock à ce moment-là. C'était pas comme aujourd'hui, ça n'existait pas encore non plus, il n'y avait pas beaucoup de lieux de diffusion, et puis avec la radio ça faisait un côté tout à fait original. Donc il y a Olivier qui était à cette époque-là déjà à la radio, qui est venu au Rockstore, et moi qui sommes les deux derniers de Radio Alligator à travailler au Rockstore vraiment.
À ce moment-là, le lieu, c'était déjà le Rockstore ou c'était encore le Grand Odéon de Philippe Conti?
Quand on l'a repris, c'était le Grand Odéon, mais le Grand Odéon était fermé déjà depuis 4-5 mois. Et quand on a réouvert, quand on a racheté, c'est devenu le Rockstore.
À quel moment la Cadillac s'est plantée dans le mur?
En 86, en septembre 86, vraisemblablement, puisque c'était très très peu de temps avant l'ouverture de la salle, comme on avait ouvert début octobre, c'était sûrement à ce moment-là. When you may think I'm foolish for the foolish things I do, you may wonder how come I love you when you get on my nerves like you do. Well, baby, you know you bug me. Yeah, there ain't no secret about that. Well, come on over here and hug me, and maybe I'll spill the facts. Because, honey, it ain't your money. 'Cause, sugar, I got plenty of that. I love you for your pink Cadillac, crushed velvet seats, riding in the back. Oozing down the street, waving to the girls, feeling out of sight, spending all the money on a Saturday night. Oh yeah, just wonder what you do there in the back of your pink Cadillac, your pink Cadillac.
Ça devait créer un rythme infernal d'avoir la radio en plus.
Disons qu'à ce moment-là, le Rockstore était ouvert de 7h du matin, parce qu'on commençait à prendre l'antenne à 7h du matin. Et donc, on avait au début, le Rockstore était ouvert le matin, il y avait même le café qui était ouvert. Puis petit à petit, on a commencé à l'ouvrir à midi, puis finalement à 6h. Quoi. Et on restait ouvert jusqu'à, pas obligatoirement tous les soirs, jusqu'à 4h du matin, puisqu'à cette époque-là, la discothèque fonctionnait moins, peut-être, enfin, fonctionnait moins, on n'avait pas un axe tout à fait pareil. Et voilà, c'était comme ça. Puis, peu de temps après, vite, quand la discothèque a commencé à tourner à plein régime, très souvent, les gens qui finissaient la nuit voyaient l'animateur qui arrivait le matin. Quoi. C'était, donc, ça faisait du 24h sur 24.
Il y avait d'autres discothèques à l'époque, en centre-ville.
Oui, tout à fait, voici. Bon, après, il n'y avait pas de scène non plus, tout un tas de cafés qui faisaient des concerts, donc qui amenaient des groupes. Et quand nous, on a commencé à faire des concerts gratuits qui étaient en plus retransmis sur la radio, c'était vraiment quand même quelque chose d'un peu nouveau, même en France. Quoi. Beaucoup de gens regardaient à ce moment-là, puisque les concerts étaient gratuits, mais les concerts, il y avait les groupes locaux, qui étaient locaux, nationaux, qui étaient un peu l'épine dorsale. Mais il y avait beaucoup de groupes qui étaient... On travaillait beaucoup avec la radio, avec les maisons de disques, et beaucoup de groupes qui étaient en promotion voulaient jouer, comme ils savaient qu'ils ne feraient pas 500 personnes sur un concert payant, ils préféraient faire une promo, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un showcase, mais qui était de vrais concerts, les faire comme ça, et très souvent d'ailleurs on les retransmettait à la radio.
Aujourd'hui, avec la rigidité de plus en plus croissante au niveau des droits de rediffusion, est-ce que ça sera encore possible d'avoir un outil comme ça pour le Rockstore?
Oui, il faut qu'il y ait une volonté de tous les intervenants, c'est-à-dire à la fois des artistes, mais qui n'étaient pas contre, on a retransmis des trucs, alors qu'on avait les gars au début étaient très pénibles au niveau des moyens de diffusion, ils nous demandaient ce qu'on avait, on avait juste un in and out, c'est-à-dire deux lignes pour retransmettre le signal qui venait de la console, et les gens étaient, les producteurs étaient un peu méfiants, et puis quand ils entendaient ce qui sortait à l'antenne, bon, il s'est passé, on a eu des musiciens de jazz qui sont toujours un peu pointilleux sur le son qui va sortir, et des grands et qui ont accepté qu'on retransmette deux morceaux. Et souvent on voyait qu'au bout de un ou deux morceaux, déjà arrivé, j'ai entendu le morceau j'ai entendu ça à la radio, je vais voir le concert. We'll be right back.
période où il y avait tout. Il y avait un restaurant. Il y a eu un studio d'enregistrement, je ne me rappelle plus.
Non,
pas vraiment.
Non.
Mais il y avait le restaurant en haut, le bar, la radio, la salle de concert. C'était, il n'y avait pas beaucoup de lieux comme ça en France.
C'était un peu unique, hein, je pense.
Laurent Sauvagnac, dit Fardy.
Après, le concept, il a été repris dans pas mal d'endroits, mais c'était un peu unique. On avait un café de jazz à l'étage à une époque. Le restaurant sur le balcon où tu pouvais voir les concerts, c'était, oui, c'était rigolo.
Là, c'était quoi? C'était un peu une utopie d'une bande. Vous étiez dit, on va faire un lieu total, quoi. C'est un lieu unique.
Petit à petit, les choses s'imposaient. Quelqu'un nous proposait le restaurant, on a dit, on va faire le restaurant. Après, ça a fait grincer des dents, donc on a été obligé de le faire. Mais il y avait quelques artistes qui ne voulaient pas avoir de personnes qui mangeaient en même temps que le concert avait lieu. Alors certains producteurs ne faisaient occulter les vitres qu'il y avait pour protéger et pour pas que les gens voient le concert, parce que bon voilà. Mais bon, dans l'idée, ça marchait quand même assez souvent, quoi. C'était tout à fait jouable, quoi. Après, derrière, bon, au fur et à mesure, on a eu un tatoueur, parce qu'un jour, un des gars qui montait le Rockstore a décidé d'ouvrir, a demandé s'il pouvait monter un cabinet de tatouage. C'était dans les années, au début 90, quoi. Hein. Et donc, on avait un tatoueur qui se faisait les après-midi. Il était rôde, en fait, mais il venait les après-midi de 2h, 14h à... toute la nuit, qui tatouait les gens juste à côté de notre bureau. Il y avait une petite cabine et qui tatouait les gens. Il y a eu Little Bob qui s'est fait tatouer, des artistes qui venaient, comme ça, qui voyaient le tatouage. Bon, c'est pareil, des tatoueurs, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. Et lui, en plus, il n'était pas mauvais, connu, quoi. Enfin, et voilà.
Radio Alligator 89.9. Les auditeurs ont la parole.
C'est quoi les très grands souvenirs de l'époque Alligator?
Non, il y en a énormément. On a eu beaucoup de souvenirs parce que dès qu'un artiste passait, on le prévenait dès qu'il arrivait, qu'il y avait la radio qui marchait, etc., etc. Que pendant qu'il ferait la balance, on couperait nous le son, on enverrait des disques à ce moment-là, on enverrait plus de... Parce qu'on était quand même avec une proximité. La radio était à la fois dans la salle et sur l'extérieur. Donc on faisait comme ça, mais l'artiste venait après la balance systématiquement faire une interview à la radio. Donc on avait tous les artistes qui passaient au Rockstore qui venaient, eux ça les arrangeait bien. Et bon, on a eu des moments très sympathiques quand Lenny Kravitz il fait animateur radio, c'est-à-dire il nous demande comment ça marche, on lui explique, on lui montre la technique, qui n'est pas bien compliqué, et hop, il fait une heure d'émission.
My pockets were full, now my money's gone. My friends come around and now they're gone. Things come and they come and then they go. And where they go, nobody knows. It's gonna come around. What goes around comes around. It's gonna come around. What goes around comes around. And grace, yet people push bullshit in my face. The future can't hold what your money can't buy. My brother keeps driving, your child relies. It's gonna come around. What goes around comes around.
Un jour, on a eu les Cramps aussi qui venaient pas en concert. Ils viennent juste pour faire une interview à la radio. Donc l'interview, parce que t'entends, on avait aussi des groupes qui venaient, qui n'étaient pas en concert, qui venaient faire des interviews, puisque la radio recevait beaucoup de monde à ce moment-là. Et pour les Cramps, il y avait 300 personnes, eux, ils avaient pris peur, ils avaient demandé de sortir par derrière, tellement les gens étaient devant eux, et tout le monde était dans le café à l'entrée. On n'avait même pas réussi à rentrer tout le monde, et il y avait les Cramps qui étaient derrière la vitre, et qui prenaient peur de voir tous ces gens qui les regardaient.
Well, everybody's heard about the bird. But I
Donc les souvenirs, Et puis les mauvais souvenirs, quand un peu s'est arrêté ou des choses comme ça. Quoi.
Bah justement, ça, pourquoi c'est arrêté?
Ça s'est arrêté parce que l'ancien fondateur de la radio, qui était François Jassin, un jour a décidé de la vendre, voilà.
Aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple que ça, mais disons-le comme ça.
C'est devenu quoi, toutes ces perles, là, toutes ces bandes? Il y a un fond comme ça d'archives dans lesquelles les gens peuvent aller piocher?
Non, il y avait beaucoup moins d'archives à cette époque. On a quelques bandes de Revox, mais bon... sont d'être pas très exploitables aujourd'hui.
Ils ont changé. La dernière fois, on a essayé d'en écouter, c'était pas. Elles se sont mal conservées.
Vous aviez pas pensé des conditions optimales de conservation?
C'était quoi les conditions optimales de conservation?
Au frais, une chambre noire.
Non, là, elles sont restées dans la cuisine pendant 5 ans et forcément, après, c'était moins bien.
Ça a été une grosse claque, l'arrêt de la radio? Ça a presque.
Oui,
qu'est-ce que ça a déclenché en vous?
Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait deux piliers, il y en a un qui tombe. Alors c'était quand même, plus la radio, c'était un moyen de communication, un moyen de promotion des concerts, mais en même temps c'était tout un esprit. Il y avait les gens, ils venaient, des gens venaient nous voir à la radio rien que parce qu'il y avait la radio. Bon, les gens venaient voir des concerts parce qu'ils entendaient la musique à la radio. Nous, quand on avait un concert un peu délicat ou difficile, on programmait ça pendant toute la journée, 10 fois par jour on programmait, et finalement ça devenait des tubes presque locaux, presque que sur Montpellier. Radiohead, quand on a fait le premier concert qui était un concert gratuit, les gens ils connaissaient le morceau, ils sont venus en nombre parce qu'ils avaient entendu. Donc ils s'étaient rendu compte qu'il y avait de la qualité et que ça valait le coup de venir à un concert gratuit.
C'était quoi le morceau?
C'était Creep.
Ah ouais.
Voilà.
T'as pris l'antenne.
C'est quoi? C'est que t'aimes pas parler dans le micro, c'est
pas
ça
du tout. Voilà, j'aime pas parler dans le micro. Voilà, je dis plus rien. Non, pas du tout, mais je faisais des nuits à cette époque-là, donc c'était difficile de... Je m'en occupais de la radio en partant le soir, j'ai renvoyé les bandes à 4h du matin, voilà, je passais quelques disques entre la discothèque ou le concert et tout ça, mais je parlais pas, c'est sûr. Et je m'en occupais aussi, parce que tout le monde s'occupait de la radio. Je faisais partie, c'était un des piliers.
C'était quoi la couleur musicale dominante à la radio?
On peut dire rock, mais rock dans l'esprit. Enfin, quand je dis rock, ça allait... Bon, c'est vrai que la radio, au départ, elle était une radio rock à l'époque où ça n'existait pas vraiment, quoi, en France. Après, derrière, on a gardé bon l'esprit. Aujourd'hui, rock, ça ne veut pas dire grand-chose. C'était... Aujourd'hui, on dirait musique actuelle et tout ça. C'est... Bon, c'est pas beaucoup mieux, hein, c'est une définition. Mais on passait beaucoup d'artistes français qui étaient les artistes du moment, tous les petits groupes, tout un tas de groupes. Même la Mano Negra, au tout début, s'est passé sur nos zones alors que c'était inconnu, des choses comme ça. Bon, on passait Taxi Girl, on passait des trucs comme ça. On ne passait pas de variété, c'était un peu le truc, c'était pas de variété. après, il y avait de la musique californienne, il pouvait y avoir de la musique pop.
Ça, on imagine qui c'est, la musique californienne, hein, qui était derrière.
C'est notre vieux surfeur.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Après, il y avait
aussi de la soul.
Il y avait de la soul, de l'africain, du 22, de toutes les tendances de la musique, du jazz.
Dimanche au Louvre, c'était café jazz souvent, donc.
Tous les dimanches soir.
Donc, il y avait cette ambiance-là, on passait des disques de jazz.
Mais il y avait comme ça une programmation qui était beaucoup plus large que celle du Rockstore, qui brassait tout un tas de moments de la région.
C'est-à-dire que la radio était quand même relativement... Enfin, avait beaucoup d'auditeurs, quoi, en tout cas bien ciblés aussi, donc avait beaucoup d'auditeurs dans sa cible, et fatalement, beaucoup de gens venaient faire appel à nous pour être partenaires. Bon, nous, le blues, c'est vrai qu'on aimait bien ça, pour nous, c'était des musiques à l'origine de notre musique, donc on en faisait pas mal. D'ailleurs, à cette époque-là, les concerts de blues marchaient mieux qu'aujourd'hui, parce que justement, la radio permettait de faire connaître des artistes qui n'étaient pas vraiment connus du grand public, mais quand ils les entendaient à la radio, ils s'apercevaient que c'était quand même des pointures. On a eu des John Campbell ou des gens comme ça qu'on a fait un peu décoller. Ça, c'était vraiment c'était en osmose parfaite avec le lieu. Le lieu, il transpirait ce que la radio, c'était un peu la transpiration du lieu, quoi.
L'idée de remonter la radio vous-même, ça vous a pas effleuré l'esprit?
Si, bien sûr. Enfin, plein de fois, et puis encore aujourd'hui. Mais le truc, bon, les choses ont changé au niveau déjà du paysage radiophonique. Bon, et après il y a toutes les radios internet, il y a toutes les radios comme ça, et aujourd'hui pour avoir une fréquence c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas aussi facile, ou alors il faudrait vraiment avoir un budget relativement bien prévu là-dessus, monter un projet. Bon, après il y a plusieurs fois on a fait des tentatives de réavoir une fréquence, on nous la donnait pas aussi parce que justement la radio avait été vendue, ce qui était une chose qui était a priori interdite, mais enfin tous les réseaux de radio se sont montés comme ça, en vendant des fréquences au grand groupe, alors que c'était totalement interdit de vendre sa fréquence. Bon, donc à partir de là, aujourd'hui, bon, c'est quand même une histoire de gros sous, beaucoup. Sinon, la passion, oui. Alors, on a pensé à faire des radios sur internet ou autre, mais bon, c'est pas la même chose non plus, quoi. La radio, elle doit être proche des gens. Enfin, écouter une radio rock à San Francisco, c'est bien sympathique, mais bon, il n'y a pas le même rapport qu'avec écouter une radio rock à Montpellier, où il y a l'actualité de la vie qui est mêlée avec l'actualité internationale. C'était nos bases.
Mais d'ailleurs, hormis ceux qui sont restés au Rockstore, tous ceux qui bossaient à Alligator ont continué à faire de la radio.
Certains ont continué, d'autres ont envie de le remonter. Souvent, des anciennes demandent si on ne remonterait pas quelque chose, etc., etc. Oui, ça c'est... Et puis, il y en a beaucoup qui aiment bien faire encore de la radio. Il y en a quelques-uns qui le font en professionnel et d'autres qui continuent à le faire plus ou moins en amateur. Enfin, en tout cas, c'est pas leur manière de gagner leur vie. Quoi.
Quand la radio s'est arrêtée en 96, il y a eu cette idée que le rockstar allait péricliter
Ah, bien sûr. Nous, au début, on était très contre l'idée de faire de la radio. Mais bon, c'était une volonté, donc on n'avait pas les moyens non plus de revenir derrière. Quoi, donc. Et derrière, il a fallu tout réorganiser sans la radio. Quoi.
C'est là que Laurent est arrivé, en associé, non?
Non, c'était avant déjà, c'était en 94.
94
Nous, on a repris le Rockstar en 94. Enfin, on a repris. Moi, je l'avais déjà, j'étais déjà. Ah, on a remonté le Rockstar, c'est-à-dire que Chassel, là aussi, quand il a vendu la radio, il voulait vendre le Rockstar aussi. Et quand il a. Donc, nous, on avait envie de continuer au moins le Rockstar, de continuer l'aventure. Et donc, on s'est associé, on a repris le Rockstar avec, à ce moment-là, en 94, donc avec Laurent, Olivier et Steph.
On vient de tourner la page Alligator. Production, réalisation, François Barrez, Vincent Cavarot.